D'abord, bonsoir à tous. Dans le cadre de vos rencontres régionales du Haut-Vaudois sur les relations avec Dieu, il m'a été confié le sujet de la piété. C'est un sujet, un très beau sujet. C'est un sujet malgré tout difficile, parce que il est diffus dans la parole, il y a beaucoup de références bibliques. Je ne peux pas les chercher, toutes ces références. Nous ne sommes pas là d'ailleurs pour faire un catalogue. Il est peut-être aussi difficile parce qu'il est très pratique. Nous sommes, le prédicateur et chacun, nous sommes très impliqués avec ce sujet de la piété. Mais c'est très bien, ainsi, d'être impliqué. Je l'ai divisé, ce sujet, très simplement. La première partie, piété et impiété. La deuxième partie, des hommes pieux. Et la troisième partie, l'homme pieux, avec un H majuscule. Si quelqu'un parmi nous n'était pas convaincu que ce sujet est important, ou plus exactement pas le sujet, mais la piété, il suffirait de citer deux versets que nous reverrons dans la première épître à Timothée, chapitre 5, où l'apôtre Paul dit « La piété est utile à toute chose ». Donc, c'est un absolu, hein, c'est pas rien. On sait pas trop ce que ça veut dire, on verra. Mais, et un verset aussi dans le psaume 4, où il est dit que Dieu s'est choisi l'homme pieux. C'est pas rien non plus, puisque Dieu ne choisit pas n'importe qui, il choisit l'homme pieux. Dans l'introduction, il serait peut-être intéressant d'abord de réfléchir à la définition de la piété. Qu'est-ce que ça veut dire le mot piété? Alors ceux qui connaissent l'original grec nous disent que la piété, le mot piété, est synonyme de respect, d'abord. Nous pouvons être sûrs qu'un homme pieux, c'est quelqu'un qui a un grand respect pour Dieu. Et justement, le contraire, c'est l'impiété, c'est qu'on n'a pas de respect pour Dieu. Le respect est son corollaire, on peut dire, la confiance. La confiance en Dieu. Donc il faut déjà retenir dès le départ que la piété, c'est le respect pour Dieu, c'est la crainte de Dieu, et la confiance en Dieu. C'est un peu nos deux pieds. Et je ne crois pas me tromper en disant que on trouvera pas quelqu'un qui a une grande confiance en Dieu et qui ne craint pas Dieu. Ça va ensemble ou ça tombe ensemble. Mais peut-être, justement, il arrive parfois que pour démontrer quelque chose, il faut le démontrer par l'inverse, par son contraire. Et le contraire de la piété, c'est l'impiété. C'est-à-dire le non-respect de Dieu et la non-confiance en Dieu. Et il est souvent parlé de l'impiété dans les épîtres. Par exemple, dans l'épître aux Romains, au chapitre 1er, à propos des païens, Dieu dit que l'impiété, la colère de Dieu est révélée du ciel contre toute impiété des hommes. Dans l'épître de Jude, par exemple, il est parlé aussi beaucoup de l'impiété des hommes. Et nous avons cette prophétie d'Enoch qui n'a pas été conservée dans nos Bibles, où Hénoc dit que le Seigneur doit venir au milieu de ses saintes myriades pour exécuter le jugement contre tous les impies, de toutes les actions impies qu'ils ont impiement commises. Il répète ce mot « impie ». Et nous sommes, c'est bien évident, nous sommes dans un monde impie. Et je disais que c'est des fois nécessaire de voir une vertu, comme la piété, sur un fond d'impiété, par son contraire donc, tant il est vrai qu'on présente toujours un diamant, un bijou, sur un écrin de velours noir, pour en faire ressortir la beauté. La piété va trancher dans un monde d'impiété. Et c'est hélas ce qui caractérise notre monde, un monde d'impiété, de non-respect de Dieu. Et le jugement de Dieu vient sur ce monde impie. C'est ce qu'a eu lieu avec le déluge dont fait référence cette prophétie d'Hénoc. Et parfois, Dieu, encore aujourd'hui, dit stop à l'impiété des hommes, au non-respect de Dieu, et juge cette impiété. Il l'a fait en avril 1912, quand on a osé dire, à propos du Titanic, même Dieu ne le ferait pas couler. C'était un manque de respect de Dieu, et Dieu a dit stop. Il l'a dit aussi en France, en janvier 2015, quand l'équipe de Charlie Hebdo a été décapitée. Parce que moi je les ai vus, les caricatures du Père et du Fils et du Saint-Esprit. C'était de l'irrespect total. Et on a parlé d'ailleurs à ce moment-là du droit au blasphème. C'est terrible. Et Dieu a dit stop. Dieu peut juger par des gens qu'il désapprouve totalement. On voit ça dans l'Écriture. Il suffit de lire le chapitre 10 d'Ésaïe pour voir ça. Donc nous sommes dans un monde d'impiété où la piété du croyant, des jeunes, de chacun doit briller. Mais j'ai donné une esquisse de définition de la piété, mais il va falloir maintenant comprendre un peu plus les caractères de la piété. Mais cette vertu va se découvrir au fur et à mesure de notre étude, de notre examen. Parce que vous savez, un homme pieux, c'est un peu un mystère. Il a ses secrets. Il se livre pas facilement. Il faut le découvrir. La piété, ça ne se voit pas forcément sur nos visages. Et donc, cet homme mystérieux, nous allons le découvrir ensemble. Il me semble qu'un grand caractère de l'homme pieux se trouve dans le chapitre, dans le psaume 32. Psaume 32 de David, verset 6. C'est pourquoi tout homme pieux te priera, au temps où l'on te trouve, certainement en un déluge de grandes eaux, celles-ci ne l'atteindront point. Je voudrais m'arrêter un court moment sur ce verset, qui est un peu pour moi le verset, le pilier central de la piété, de notre sujet. L'homme pieux te priera. Certainement, en un déluge de grandes eaux, celles-là ne l'atteindront pas. » Alors, évidemment, ça nous fait penser à Noé, ce déluge de grandes eaux. Et est-ce que nous nous sommes imaginés, quelquefois, l'état d'esprit de Noé dans l'arche pendant le déluge? Moi, je ne crois pas qu'il sifflotait gaiement. Non. Non, il traversait une épreuve. Certes, il était à l'abri dans l'arche. Oui, mais c'était quand même solennel ce qu'il traversait. Et puis, il y avait ce déluge de grandes eaux. Pendant 40 jours et 40 nuits, les écluses des cieux par le haut, les fontaines du grand abîme par le bas. C'était assez terrible, ce qui se passait autour. Qu'est-ce que vous pensez que Noé faisait dans l'arche? Moi, je crois qu'il priait. Je crois qu'il priait. Parce qu'un homme prie quand il est dans l'épreuve. Et puis après, il est resté 150 jours dans l'arche. C'est pas rien, une demi-année. Mais il y a quelque chose de très encourageant dans cette histoire des grandes eaux de Noé. C'est que on lit que le déluge est venu Noé avait 600 ans, dans la 600e année de sa vie. Vous croyez que certaines épreuves nous arrivent comme ça n'importe quand dans notre vie? Moi, je crois pas. Non, elles nous arrivent à un certain moment de notre vie, et pas à un autre. Et puis aussi, elles sont mesurées. Si vous lisez ce chapitre 6 de la Genèse, il y a beaucoup de chiffres. Le temps du mois et le déluge, enfin les fontaines du grand abîme et les écluses des cieux, ça représente 40 jours et 40 nuits. Et puis 150 jours. Tout est mesuré dans nos épreuves. Mais l'homme pieux prie. L'homme pieux n'est pas plus fort que les autres, il traverse les mêmes épreuves, les mêmes difficultés, mais la différence est qu'il prie. Nous venons de traverser avec mon épouse une période très difficile de notre vie. Nous avons prié 128 jours, de nuit comme de jour, et après, c'était la délivrance. Enfin, peut-être pas totale, mais c'était quand même un cap décisif. Mais plus anciennement, pour un enfant, nous avons prié 1000 jours, et c'était la délivrance. C'est l'exercice des 1000 jours, ça reste ça. Mais c'est vrai qu'il y a des épreuves aussi, des difficultés qui... Peut-être que nous devrons prier jusqu'à l'enlèvement. Parce que l'apôtre Jacques nous dit que nous devons user de patience jusqu'à quand? Jusqu'à la venue du Seigneur. Ça sera un terme à beaucoup d'épreuves, ça c'est sûr. Mais pourquoi je raconte ça? C'est un peu personnel, mais je veux pas me prêcher. Mais je dis ça pour les jeunes qui sont là. La prière, c'est pas une affaire d'un jour, d'une semaine. Il faut persévérer. Mais enfin, on dira, mais pourquoi prier si longtemps, puisque le Seigneur entend notre première prière? Oui, mais il y a des mystères. Et puis, nous ne savons pas ce qui, dans nos prières, arrête la réponse dans le monde invisible. Non, ça c'est un mystère. Mais il y a un verset dans le livre de Daniel qui nous a plus d'une fois interpellé quand l'Éternel dit à Daniel, « Homme bien-aimé, dès le premier jour où tu as appliqué ton cœur, j'ai entendu, mais le chef de la Perse m'a résisté pendant 21 jours, 3 fois 7. » Donc il peut y avoir des résistances du monde invisible de Satan, des démons, qui empêche l'exécution de la prière. Mais ça, C'est un mystère, nous ne connaissons pas tout ce qui se passe dans le monde invisible, comme Job ne connaissait pas. Ça nous est révélé, mais Job n'en savait rien. Et nous non plus, nous n'en savons rien. Mais il y a un fait qui demeure, l'homme pieux te priera au temps où l'on te trouve. Moi, j'ai pas la solution à toutes vos difficultés, vous n'avez pas la solution aux miennes, mais nous sommes là ensemble ce soir pour nous encourager et nous dire les uns aux autres, tout homme pieux te priera au temps où l'on te trouve, certainement en un déluge de grandes eaux, celles-là ne l'atteindront pas. Quand nous sommes dans le livre des psaumes, au psaume 145, nous avons un autre caractère de l'homme pieux. Verset 10. Toutes tes œuvres te célébreront, ô Éternel, et tes saints. Alors, nous avons une note, un renvoi de note qui nous dit tes pieux, hommes pieux, te béniront. Alors, c'est un verset qu'on lit quelquefois au culte parce que, et oui, les œuvres de la création te célèbrent, comme il est dit dans le psaume 19, les cieux et la terre célèbrent Dieu. Mais tes saints, tes pieux. Alors, par ce verset, nous voyons que un homme pieux, il bénit Dieu. Il prie, il bénit Dieu. Alors maintenant, nous allons dans la première épître à Timothée, où nous avons beaucoup de références à la piété. Si on étudie un petit peu ce sujet de la piété, on est très étonné de découvrir qu'on ne trouve pas la piété, le mot piété, en tout cas en français, dans les grandes épîtres. Aucune mention de la piété dans l'épître aux Romains, aux Corinthiens, aux Éphésiens, aux Colossiens, aux Galates. Pourquoi cette absence de la piété, de l'encouragement à la piété dans ces épîtres? Peut-être pour deux raisons. La première, c'est que on aurait peut-être un peu de difficulté à parler d'une assemblée pieuse. Non. C'est l'individu qui est pieux. La piété, c'est strictement individuel. Alors, si dans une assemblée locale, tous les frères et sœurs sont pieux, alors là, bien sûr que il va y avoir une assemblée vivante, chacun ajoutant la piété, sa propre piété à ceux des autres. Mais ça reste individuel. Enfin, j'en ai conclu ça. La deuxième raison, c'est peut-être parce que les épîtres à Timothée, à Tite, l'épître de Pierre, envisagent les temps de la fin. Donc, c'est peut-être dans les temps de la fin que la piété se raréfie. Comme le prophète Michée le disait, désolé, disait l'homme pieux a disparu du pays. Et son collègue Osée disait presque la même chose quand il disait au peuple de Dieu, votre piété est comme la rosée du matin qui s'en va de bonne heure. C'est-à-dire que rien de durable. Si notre piété était ça, elle passe pas la journée, c'est bien triste. Et l'apôtre Paul aussi, dans cette épître à Timothée, parlera de la forme de la piété sans puissance. Alors il y a peut-être une dizaine d'années, avec un autre frère, on faisait un sujet comme ça, on faisait ce sujet de la piété. Et puis avant l'exposé, je me creusais la tête disant « mais qu'est-ce que ça veut dire la forme de la piété ?» Puis tout à coup, j'ai trouvé dans une lecture la réponse aussi simple que pertinente. C'est une piété qui ne change rien dans la vie des gens. Rien. Ils vont peut-être dans un lieu de culte, mais dans leur vie de tous les jours, ça change rien. Ils se remettent jamais en cause, ils se jugent jamais, ils prient pas, ils louent pas Dieu. Non, ça change rien. Une forme. Ça serait bien triste si c'était ça. Mais la puissance de la piété, c'est autre chose. Alors, on va lire très rapidement les passages de la première à Timothée qui parle de la piété. Je dis bien très rapidement. Il vaut mieux peut-être un survol et puis chacun pourra approfondir. Alors, dans la première épître à Timothée, Paul dit comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. Timothée est déjà, quoique jeune, un conducteur spirituel et il doit savoir comment se conduire dans cette maison de Dieu. Et donc la piété tient une grande place dans cette maison. Et le premier passage, c'est en 1 Timothée 2, verset 2. J'exhorte donc avant toute chose à faire des supplications, des prières, des intercessions, des actions de grâce pour tous les hommes et pour les rois et pour tous ceux qui sont haut placés, afin que nous puissions mener une vie paisible et tranquille en toute insouciance, faisant nos petites affaires. Ah non, 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 non. En toute piété et honnêteté. Oui. Et nous devons prier pour les autorités et pour que nous ne soyons pas persécutés, mais parce que, pas pour notre bien-être, mais pour cultiver cette piété et honnêteté. Le second passage, c'est toujours dans ce chapitre, le chapitre 3, verset 14. Afin que tu saches comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'assemblée du Dieu vivant, la colonne et le soutien de la vérité, sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, etc. Je vous le disais tout à l'heure que l'homme pieux, il a son secret. Et voyez comment la phrase est construite. Sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Je le traduis ainsi. Le secret dont la piété se nourrit est grand. Dieu a été manifesté en chair. Faut pas penser que la piété se nourrit de choses, secondaires. Je crois que dans la vérité de Dieu, la vérité de Dieu est une. La vérité de Dieu est toujours au singulier. Quand c'est les vérités ou les doctrines, c'est toujours les fausses doctrines. Pourquoi c'est toujours au singulier la vérité? Parce que la vérité de Dieu, c'est un tout dont le centre est le Seigneur Jésus. Et on a, comme dans un centre, comme dans un cercle, on a ce qui est autour du centre, mais on a aussi la périphérie. Mais ça fait toujours partie de la vérité de Dieu. Je crois qu'il y a une hiérarchie dans la vérité de Dieu. Et donc, la piété se nourrit pas de la périphérie. Il n'est pas dit que le mystère de la piété, c'est le millénium. Non, mais le millénium, ça fait partie de la vérité de Dieu. Mais le secret dont la piété se nourrit, c'est ce mystère de l'incarnation du Seigneur Jésus. Mais c'est inouï, ça. Le Seigneur Jésus est Dieu, le Créateur, il était là. Il était là dans la crèche de Bethléem. Et qu'y a-t-il de plus fragile qu'un nouveau-né? On y a pensé à chaque fois que nos enfants sont nés. Seigneur Jésus a été cela sur la terre, réellement un homme, un jeune homme, un adolescent comme il y en a là, un homme mûr qui a participé à notre labeur. Il était connu comme le fils du charpentier et dans l'évangile de Marc, il était même le charpentier. Joseph est probablement décédé assez rapidement. Il disparaît de l'évangile comme un homme qui laisse la place au Seigneur. Et puis, c'est un homme fatigué du chemin. C'est un homme qui a besoin de dormir sur la barque. C'est un homme qui est lassé du chemin. C'est un homme qui doit manger, qui doit boire, qui a les mêmes besoins que nous. Et pourtant, Dieu est là. Dieu là, c'est extraordinaire, c'est inouï. Eh bien, la piété se nourrit de cela. Hein. La piété chérit ce mystère, sans le comprendre. Alors, encore au chapitre 4, verset 7, « Mais rejette les fables profanes de vieilles femmes et exerce-toi toi-même à la piété. Car l'exercice corporel est utile à peu de choses, mais la piété est utile à toute chose, ayant la promesse de la vie présente et de la vie qui est à venir. » Alors là, l'apôtre Paul fait un parallèle avec les exercices physiques, je sais pas si vous l'appelez comme ça, la gymnastique en Suisse. Les athlètes s'entraînent, et il faut voir l'entraînement des athlètes, hein. C'est pas rien. Bon, alors Paul dit c'est peu de chose. Bien sûr, nous devons prendre soin de nos corps. Et même en vieillissant, peut-être de plus en plus, mais l'exercice de la piété, c'est encore supérieur, dit Paul. Pourquoi ça a les promesses. La piété a les promesses de Dieu. Les promesses concernant quoi? De la vie présente, de nos circonstances, et de la vie qui est à venir. On a dit que la piété, c'était aussi faire descendre Dieu dans notre quotidien. Encore une fois, les incroyants, ils sont aux prises avec les mêmes circonstances que nous, ils essaient de se débrouiller comme ils peuvent, mais nous, on introduit Dieu, on prie Dieu, c'est ça la différence. Et donc, la piété a des promesses. C'est pour ça qu'elle est si importante aussi là. Alors au chapitre 5, il est parlé du sujet des veuves. Les veuves, c'est un sujet très important pour Paul puisqu'il leur consacre 13 versets. Mais si quelqu'un a des veuves, si quelque veuve a des enfants ou des descendants, qu'ils apprennent premièrement montrer leur piété envers leur propre maison. Montrer la piété. Donc la piété, c'est pas une nébuleuse, c'est pas seulement une vertu qui flotte dans l'air. On peut la montrer en s'occupant de ceux qui nous ont précédés sur le chemin, qui nous ont donné la vie, nos parents, nos grands-parents. Ensuite, encore une mention au chapitre 6. Verset 3, si quelqu'un enseigne autrement et ne se range pas aux saintes paroles, à savoir celle de notre Seigneur Jésus-Christ et la doctrine qui est selon la piété. La doctrine qui est selon la piété. Vous voyez? La doctrine et la piété vont ensemble. Il n'y a pas de décalage. Et puis, un peu plus loin aussi, il est parlé de priver des hommes corrompus, dans le verset 5, des hommes corrompus dans leur entendement, privés de la vérité, qui estiment que la piété est une source de gain. Or, la piété, avec le contentement, est un grand gain. Certains, dans le monde chrétien, pourraient penser que la piété est une source de gain. Et je me souviens, un frère Rapchalis mettait en garde contre ce mélange entre, un service pour Dieu et l'argent. Parce que il y a des personnes dans le monde chrétien, voire peut-être même dans le monde évangélique, eh bien, ils sont pas libres de présenter la parole de Dieu, parce que s'ils présentent quelque chose qui déplaît à l'auditoire, ils auront moins à la collecte pour leur moi. Et ces gens-là, ils sont bridés. Il faut dissocier le salaire de la prédication. C'est un danger. L'argent a fait beaucoup de dégâts dans l'Église et en fait aussi. Je dois présenter la parole de Dieu le plus près de la pensée divine, sans être influencé par des questions d'argent. Ça, c'est rien du tout. Ça doit pas me brider, ça. Par contre, le vrai gain, c'est la piété avec le contentement ou la satisfaction. Et ça, ce gain-là, il n'est pas en monnaie trébuchante et sonnante. Dans la deuxième épître, oui, il est parlé de la forme de la piété, je n'y reviens pas, et chapitre 3, verset 12, il est dit « Tous ceux qui veulent vivre pieusement dans le Christ Jésus seront persécutés ». Vous savez, ce qui suffit, d'après ce verset, qui suffit de faire pour être persécuté, vivre pieusement, c'est tout. Et réellement, dans beaucoup de pays, cela suffit. Nous sommes bien épargnés. Pourquoi ? Nous le devons seulement à la grâce de Dieu. Un dernier verset, parce qu'il faut que j'avance, dans la première épître de Pierre, un verset très encourageant sur ce sujet. Dans la deuxième épître de Pierre, il est dit, chapitre 2, verset 9, « Le Seigneur s'est délivré de la tentation, les hommes pieux. » Eh bien, c'est un verset que j'ai pas de commentaire à faire. C'est une promesse de Dieu que Pierre transcrit pour nous. Je le prends comme un encouragement, je vous le donne aussi. Le Seigneur s'est délivré de la tentation, de l'épreuve, les hommes pieux. Maintenant, nous allons voir rapidement des hommes pieux. Là, la liste est longue, mais je pense à plusieurs hommes. D'abord, David. Je lis pas de texte pour David. David était certainement un homme pieux. Il était un homme pieux dès sa jeunesse. La preuve, c'est que, vous savez, il avait fait des expériences au désert autour de son village quand il gardait ses moutons. Et il le dit à Goliath dans la vallée d'Ela. Il dit, l'Éternel qui m'a délivré de la patte de l'ours et de la gueule du lion, lui me délivrera de ce Philistin. Vous voyez, au moment du combat public, il fait référence à sa vie seule avec son troupeau où il avait eu affaire à Dieu. Il y a beaucoup de bergers qui ont rencontré des ours et des lions, j'imagine, à cette époque. Oui, mais la différence, encore une fois, c'est que David avait fait une expérience avec Dieu. Et c'est une chose vraiment importante que les jeunes qui sont là fassent des expériences avec Dieu dans des circonstances qui sont tout ordinaires, et des circonstances de danger, par exemple. Alors, avec David, il faut quand même que j'évoque quelque chose. C'est pénible de le faire. Mais il y a une pensée d'un frère ancien, Jean Darby, qui dit « Il n'y a rien de plus solennel que la chute d'un homme pieux. » Et c'est vrai que c'est solennel. Comment ça se fait que cet homme pieux, qui nous a donné la moitié des psaumes, 75 sur 150, ait chuté de cette manière ? La chute d'un homme pieux, ça veut dire que c'est un avertissement pour nous. Personne n'est à l'abri ici. Personne. Bon, il a vu cette belle femme qui se lavait de dessus la muraille. Jusque-là, c'était pas terrible. Mais après, il est allé se renseigner exactement sur cette femme et on lui a dit d'un renseignement précis. C'est Bathsheba, fille d'Éliam, femme d'Uri. Cette femme était mariée, stop, feu rouge. Vous savez ce qu'il a fait, David ? Il a grillé le feu rouge. Et quand il a fait revenir Uri pour essayer de lui faire assurer la paternité, il a grillé un autre feu rouge. Parce que son soldat lui a dit, mais Joab et l'arche sont dans les champs et moi j'irai coucher avec ma femme. Et précédemment, David s'était inquiété pour l'arche, il avait dit, mais moi je suis dans une maison de cèdre et puis l'arche est sous un tapis, ça convient pas. Oui, mais maintenant, il y pense plus à l'arche. Et c'est son soldat qui lui rappelle. C'était un autre coup d'épée dans la conscience. mais il n'entend rien. Il n'entend rien. L'homme pieux, pourtant. Mais moi, il y a quelque chose dans cette histoire qui me console. Ça veut dire, c'est quand un homme pieux, il ne chute pas sans que Dieu l'avertisse. Non. Non, une chute, c'est pas en un jour qu'on chute. C'est que Dieu nous avertit et on a grillé les feux rouges de Dieu. Peut-être que quelqu'un est averti ce soir. Aussi. Dieu a tous les moyens pour avertir, pour nous avertir. On ne tombe pas d'un seul coup comme ça. Mais, ce qui est consolant aussi, ce qui me rassure, c'est que l'homme pieux, il se relève. Et David s'est relevé. Moi, je crois que quand on est pieux, ça reste à vie. On peut chuter, mais on se relève. David s'est relevé. Et il faut voir le psaume 51. C'était une vraie confession. C'était pas du bout des lèvres. Et c'est ça qu'il faut. Nous sommes tous faillibles. Et un jour ou l'autre, nous tombons pas forcément dans ce domaine, mais dans d'autres choses plus petites, peut-être que nos frères ne savent pas. Mais un homme pieux, je crois que c'est un homme qui sait confesser son péché. Ça fait partie du programme de l'homme pieux. Alors, deux autres hommes pieux, rapidement, dans le deuxième livre des Chroniques. Deuxième livre des Chroniques, au chapitre 32. C'est à propos d'Ézéchias. Chapitre 32, verset 32, et le reste des actes d'Ézéchias et ses actions pieuses. Voici, ils sont écrits dans le livre d'Ésaïe le prophète et dans le livre d'Amos, dans le livre des rois de Juda et d'Israël. Ses actions pieuses d'Ézéchias. Alors, Ézéchias, oui, c'est un homme pieux, mais on se demande d'où lui vient sa piété. Je sais bien que la piété n'est pas héréditaire, mais nous sommes nombreux ici à être profondément reconnaissants d'avoir eu des parents pieux. Ah oui, ça compte. Mais c'est pas le fait de tous, surtout pas d'Ézéchias, parce que son père, Akaz, était impie. C'était l'homme où il voulait tout changer, lui. Il a déplacé la cuve d'airain, enfin, il a tout changé. Et puis, il a fermé les portes. Et son fils, pieux, il a fait le contraire. Il a ouvert les portes, il a rallumé les lampes. D'où lui venait cette piété? Peut-être de sa mère et du père de sa mère, qui était un certain Zacharie, dont il est dit qu'il avait l'intelligence des visions de Dieu. Si c'est le même Zacharie. Bon, ça c'est encore sujet à caution. Mais souvent la piété d'une mère, c'est, on a dit d'un serviteur de Dieu, il y a toujours une femme derrière. Si c'est pas une mère, c'est une épouse. Ça se vérifie souvent. Souvent. Et donc, ces actions pieuses, bon, ça serait trop long d'en parler, il a purifié, il a brisé des idoles, il a purifié le temple, Et il a fait la Pâque, ce grand souvenir de la délivrance de l'Égypte. Et Ézéchias a été éprouvé trois fois. D'abord par Sanchérib, roi d'Assyrie, qui avait déjà investi tout le petit territoire de Juda, et puis qui était sous les murailles de Jérusalem. Et là, on a une belle chose qui est dite. Et c'est ce jour-là, ils étaient deux à la réunion de prière, Ézéchias et Ésaïe. Et il est dit qu'ils crièrent au ciel. Et Dieu a entendu le cri de ces deux hommes. Et le matin, c'était 150 000 hommes par terre sous les murailles de Jérusalem. L'homme pieux te priera, vous savez. Et le deuxième, c'est sa maladie. Il a prié aussi, avec larmes. Des fois, nous prions avec larmes, nous aussi, dans les épreuves. Et Dieu a ajouté 15 ans à sa vie. Et la troisième, quel dommage, il a chuté, lui aussi. Il a montré ses biens, il a montré les biens de la maison de l'Éternel au roi, aux ambassades de Babylone. Il n'y a que le Seigneur qui a les trois tentations, il a tenu ferme. Ézéchias 2, mais il a chuté à la troisième. Et donc, mais là aussi, il est dit, au verset 26, et Ézéchias s'humilia de ce que son cœur s'était élevé. Un homme pieux, c'est un homme qui sait se humilier quand il faut. Et il se relève. Et à sa mort, on voit que l'Esprit de Dieu ne note que ses actions pieuses. 1 Corinthiens 4, chacun recevra sa louange. Dieu n'oubliera rien. Des actions pieuses que nous avons pu faire dans notre vie. Le deuxième, c'est Josias. Josias, le dernier roi de Juda pieux. Josias, que j'appelle le dernier flambeau, au chapitre 35, verset 26, et le reste des actes de Josias et ses actions pieuses, conformément à ce qui est écrit dans la loi de l'Éternel et ses actes, les premiers et les derniers, voici, ils sont écrits dans le livre des rois d'Israël et de Juda. Alors là, ça serait aussi très intéressant de voir ses actions pieuses. On voit que Josias a commencé de régner à l'âge de 8 ans, très jeune, sauf erreur, et donc il a purifié Juda des idoles, il a renversé des colonnes consacrées au soleil, enfin, il a fait une purification extraordinaire, très poussée de tout son royaume, pas seulement de Jérusalem. Et ça a duré plusieurs mois. Et puis, il a fait la Pâque aussi, lui. Une Pâque qui n'avait pas été faite depuis Samuel le prophète. Une Pâque magnifique. Et puis, à la fin de son règne, c'est dommage. Ce roi, je sais pas comment expliquer son acte d'entêtement. Quand le roi, le pharaon Nécho est venu, il était seulement de passage. Il allait ailleurs. Et puis, Josias s'est buté. Il est entré en guerre contre le pharaon Nécho. Et qui lui disait, mais désiste-toi, l'Éternel est avec moi. Et il s'est buté. Parfois, ça arrive peut-être, même aux hommes pieux, de se buter dans une situation mauvaise. On n'en démord pas. Et il a trouvé la mort. Une flèche l'a atteint. Oui, mais n'empêche que je retiens que l'Esprit de Dieu parle à sa mort de ses actions pieuses. Ses actions. Alors, il y aurait long à parler des hommes pieux. Il faudrait penser, par exemple, à Siméon. Siméon, il était juste et pieux, il dit. Il attendait la délivrance. Et là, il y a un critère que j'ai pas mentionné encore, là, à propos de Siméon, c'est qu'il est un homme pieux, il est conduit par l'Esprit. Il est dit que Siméon était conduit par l'Esprit dans le temple. Un homme de pieux et conduit par l'Esprit. Vous voyez, petit à petit, on découvre les caractères de l'homme pieux, parce qu'il a son secret, il se dévoile pas facilement. Il faudrait penser aussi au début du livre des Actes, il y a un verset qui nous montre que les apôtres étaient des hommes pieux. Pierre et Jean, quand ils sont à la belle porte du temple, et qu'il y a cet infirme là qui a été guéri, mais les apôtres disent, mais ce n'est pas par notre piété que nous avons fait marcher cet homme, mais par le nom de Jésus. Oui, mais n'empêche qu'ils disent qu'ils étaient pieux. Incidemment, nous le savons. Et ça ne nous étonne pas, d'ailleurs. Et un peu plus loin, il est dit que des hommes pieux en portèrent Étienne. Vous voyez, le premier martyr, ça devait être un jour solennel, hein, de porter le cercueil d'Étienne. Il fallait des hommes pieux Pour certains services, il faut des hommes pieux. Et puis, alors je vais quand même m'arrêter un instant sur le chapitre 10 des Actes, parce que il y a un détail intéressant à propos de Corneille. Acte 10, verset 1, « Or, à Césarée, un homme nommé Corneille, centurion de la cohorte, appelé Italique, pieux et craignant Dieu avec toute sa maison, etc. » Alors c'était un homme important, hein, ce Corneille, puisque il commandait une centurie, 100 hommes, et la cohorte qui en comptait 600 hommes. Et il est dit qu'il était pieux, cet homme, ce Romain, donc. Hein. Et puis au verset 7, alors quand l'ange qui lui parlait s'en fut allé, Corneille ayant appelé deux de ses domestiques et un soldat pieux d'entre ceux qui se tenaient toujours auprès de lui. Alors, j'aime ce passage parce qu'il montre que, oui, c'était le caractère de cet homme important, de cet officier. Enfin, officier, c'est un terme français, contemporain. Et puis, son soldat, lui aussi, était pieux. Donc, il peut y avoir de la piété dans tous les rangs sociaux, tous les âges, et tous les rangs sociaux. On a vu, dans certaines assemblées, peut-être moins aujourd'hui, mais si quand même, il y a le grand patron qui est là, puis son ouvrier, ils peuvent être côte à côte. Ils sont tous les deux pieux, mais dans la société, ils n'ont pas le même rang. Et nous n'avons pas le même âge. Mais un jeune peut être pieux à 18 ans, 16 ans. Et un vieillard aussi. Alors, troisièmement, l'homme pieux. C'est quand même remarquable qu'il soit parlé de la piété du Seigneur Jésus. Dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 5, verset 7, « Qui, durant les jours de sa chair, ayant offert avec de grands cris, avec des larmes, des prières, des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, ayant été exaucé à cause de sa piété, quoiqu'il fût fils, a pris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, etc. » Il faut nous référer aussi au psaume 16, verset 9, le Seigneur Jésus parle par l'esprit prophétique, « Car tu n'abandonneras pas mon âme au Shéol, et tu ne permettras pas que ton saint ou ton pieux, en note, voie la corruption. Tu me feras connaître le chemin de la vie, ta face est un rassaisissement de jour, et il y a des plaisirs à ta droite pour toujours. » Sa piété. Ah, il y aurait long à dire sur la piété du Seigneur Jésus. C'est l'homme pieux par excellence. C'est l'homme qui craint Dieu, qui a du respect pour Dieu, je n'en doute aucun instant. Et c'est un homme qui a une grande confiance en Dieu. D'un bout à l'autre de sa vie, le Seigneur Jésus s'est confié en Dieu. Dans le psaume 22, il est dit « Tu m'as donné confiance sur les mamelles de ma mère. » Ce verset est mystérieux, c'est vrai, mais j'ai l'impression que la piété, que la confiance du Seigneur Jésus est identifiée à celle de sa mère. Marie était une femme pieuse, une jeune fille pieuse. Et jusque sur la croix, quand il était abandonné, vers qui criait-il sa détresse? Vers son Dieu. Le Seigneur Jésus a été cet homme pieux qui te prie au temps où l'on te trouve. On voit dans l'évangile de Luc spécialement sept fois en prière. Et certaines de ces prières nous ont été conservées, comme Jean 17, la plus longue, et d'autres petites prières. L'évangile de Marc, au chapitre 1er, verset 35, nous dit que le Seigneur Jésus se levait longtemps avant le jour pour prier. Et dans un évangile, il nous est parlé aussi de la prière du soir. Je pense que les journées du Seigneur étaient un tissu de prière. Pourquoi? Parce que l'homme pieux te priera. Et le Seigneur Jésus était aussi un homme pieux qui était conduit par l'Esprit. C'était aussi un homme pieux qui loue Dieu, selon le psaume 145. Toutes les excellences sont réunies dans cette personne. Si nous voulons voir un homme pieux, il faut nous arrêter sur cet homme, Christ Jésus. Nous avons vu avec David, avec Ézéchias, avec Josias, qu'ils ont chuté quelque part, alors que c'était, malgré tout, des hommes pieux. Mais dans la vie du Seigneur, jamais il n'a chuté. Il n'y a eu aucune défaillance dans sa conduite, parce qu'il était toujours en relation avec Dieu. Et un homme pieux, c'est un homme qui est en relation avec Dieu, d'une façon pratique, par rapport aux circonstances de la terre, de la vie sur la terre. Et le Seigneur a participé à notre humanité sans tricher réellement la vie sur la terre. Si bien que nous ne pouvons pas traverser une circonstance en nous disant « le Seigneur l'a pas connu ». J'ai été touché un jour dans un livre de Joni Erickson, cette américaine tétraplégique. Elle dit quelque part « Jésus a été comme moi finalement ». Ah bon? Il n'a pas été cloué sur un fauteuil roulant, paralysé? Mais si, quand il avait les mains clouées sur la croix, il était bloqué là comme moi. Vous voyez comment on découvre que le Seigneur Jésus nous a précédés dans tous nos chemins de souffrance? Mais il a fait intervenir Dieu. C'est ça l'homme pieux. Il fait descendre Dieu dans les circonstances. Et là, ça évoque, c'est peut-être un des seuls passages des épîtres qui évoque Gethsémané. On voit cet homme dans ce jardin, le front dans la poussière, suppliant Dieu, s'il est possible, que cette coupe passe loin de lui. C'est l'homme pieux. Alors quelqu'un dira, mais il n'a pas été exaucé, puisqu'il a dû passer par la mort. Oui, mais il a été exaucé dans la résurrection. Et c'est quand même touchant, moi je trouve vraiment touchant qu'il a été exaucé à cause de sa piété. Ça, il faut y réfléchir. C'était juste de délivrer cet homme pieux. C'était juste. Dieu s'est délivré de la tentation, de l'épreuve. Les hommes pieux, on peut l'appliquer au Seigneur. Nous devons persévérer dans la prière. Le Seigneur Jésus est un exemple encore à Gethsémané. Il y a des choses dans notre vie qui sont difficiles à accepter. Où nous devons aussi, quitte à le faire par terre aussi dans les larmes, parce que là il est dit avec de grands cris, avec larmes. Il y a des choses qu'on n'accepte pas comme ça, en disant une petite prière, que ta volonté soit faite, et puis on n'en parle plus. Ah non! Des fois, l'acceptation, c'est un long chemin de souffrance, de peine. Et d'ailleurs, c'est dit là, puisque pourquoi il a prié trois fois le Seigneur? Vous croyez que la première prière n'allait pas au Père? Ah si, elle allait au Père la première, mais ça veut dire que c'est des fois un long chemin d'acceptation. L'homme pieux. Il faut que je conclue. Il nous a un peu livré ce secret, cet homme pieux. Il faut qu'on repasse dans nos cœurs ces caractères de l'homme pieux. Et puisque, d'après le psaume 4, Dieu s'est choisi l'homme pieux. Nous pouvons demander au Seigneur que nous soyons des hommes pieux qui choisit et qu'il tienne dans sa main parce que, justement, nous pouvons, même avec cette piété, chuter comme David, mais aussi nous relever dans la confession, dans la grâce de Dieu. Et qui n'a pas fait cette expérience aussi, hein. Si notre vie a été étalée, peut-être que nous serions pas très fiers, là. Dieu s'est choisi l'homme pieux. Oui, c'est un beau sujet que vous m'avez offert ce soir. Que Dieu bénisse sa parole.